Nous avons commencé la semaine dernière, et jeudi dernier également, une petite série d'études sur le livre des psaumes. C'est un livre réellement magnifique, livre tout au long duquel le Messie et son œuvre sont annoncés. Jésus lui-même cite les psaumes afin d'annoncer ce qu'il est venu faire. Ainsi, par exemple, en Jean 15, verset 25, Jésus cite un psaume. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi, psaume 69, verset 5, « Ils m'ont haï sans raison ». Ces paroles du psaume 69 étaient vraies pour David, mais elles annonçaient aussi quelque chose de bien plus grand à venir. De nombreux psaumes peuvent ainsi être lus à deux niveaux, au niveau de l'auteur original, David ou un autre psalmiste, mais aussi au niveau du Messie à venir. Le Messie sera pleinement juste. C'est un homme qui ne marchera pas selon le conseil des méchants, qui ne se tiendra pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assiera pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la mettra dans la loi de l'Éternel, loi qu'il méditera jour et nuit. Voilà ce que nous disait le psaume premier au sujet du Messie à venir. Le lecteur du psautier est invité à réfléchir sur l'identité du juste du psaume 1 et l'identité du roi présentée au chapitre 2. Et c'est ce psaume 2 que je vous invite à lire maintenant. C'est à la page 629 des Bibles bleues devant vous. Psaume 2, page 629. Psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre propre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce psaume que nous venons de lire est un psaume d'intronisation pour le roi. Il nous parle de l'ascension au trône d'un nouveau roi sur Israël. Ce psaume a peut-être été écrit originellement pour l'intronisation de David lui-même. Dieu établit son roi sur Sion. Sion, c'est la montagne sur laquelle est construite Jérusalem. Les nations alentour sont en effervescence. Elles trament déjà des complots contre ce nouveau roi. Lorsqu'un nouveau roi accède au pouvoir, il n'est pas rare de voir les nations environnantes chercher à tester ce roi pour voir ce qu'il vaut. C'est ce qui se passe lorsque ce roi-ci accède au trône. Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Verset 6, c'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu lui-même met en garde ses nations environnantes. Moi, dit Dieu, j'ai établi mon roi sur Sion. Je l'ai choisi par l'onction. Je lui donnerai en patrimoine tous les peuples de la terre. Il soumettra le monde avec un sceptre de fer. Sa royauté sera universelle, elle sera complète. Dieu lui-même a établi son roi. Qui est ce roi présenté ici? Qui est ce roi? Voilà la question à laquelle le lecteur est invité à se poser. Qui donc est ce roi? Les deux premiers chapitres du livre des Psaumes sont primordiaux pour comprendre tout le livre. Le lecteur, nous sommes invités à réfléchir sur l'identité du juste du psaume 1 et du roi présenté au chapitre 2. Qui est ce juste? Qui est ce roi de la lignée de David? C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ce psaume 2 parle-t-il de David? Les premiers chapitres du livre des psaumes peuvent le laisser penser. Mais très rapidement, la royauté de David se retrouve mise en question. Il doit se cacher de ses ennemis. Sa royauté ne sera pas complète. David n'a pas eu en patrimoine tous les peuples de la terre. Il n'est pas ce grand roi. Alors parle-t-il de Salomon? Non plus. Ce roi aura une proximité telle avec Dieu que Dieu l'appellera son fils. Salomon, lui, va se détourner de Dieu et se prosterner devant les idoles. Moi, dit Dieu, j'ai établi mon roi par l'onction. Ce roi est au-dessus de tout roi. Le règne de ce roi sera unique. Il sera absolu et universel. Hitler, Napoléon, César, voilà ce qu'ils souhaitaient. Un règne universel, absolu sur toute la terre. Mais aucun roi, aucun empereur, aucun dictateur n'est arrivé à la cheville du roi présenté dans ce psaume 2. Il n'y a eu de toute l'histoire aucun roi de la valeur du roi du psaume 2. C'est un roi de justice, mais aussi de compassion. Un roi qui recevra en patrimoine tous les peuples de la terre. Toute la terre sera sienne. Justice et compassion caractérisent ce roi. Ce roi du psaume 2 va réunir en lui des choses qui n'ont jamais été réunies en une seule personne auparavant. Justice et compassion. Verset 11, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Ce roi est un roi majestueux, sa royauté sera pleine, c'est un roi pleinement souverain. Mais c'est aussi, chose merveilleuse, un roi rempli de compassion. Nous croyons que ce roi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce roi fort, puissant, glorieux, trois fois saint, mais en même temps proche de son peuple, rempli de justice, mais aussi d'amour et de compassion. Qui est ce roi ? Du psaume 2. Il faut nous poser la question, parce que nous est rapporté ici le portrait du roi idéal, d'un roi parfait. Le roi idéal est glorieux, souverain, il est juste, mais il est également proche du peuple, rempli d'amour et de compassion. Voilà le portrait du roi idéal, justice et compassion. Je trouve frappant de voir à quel point les fictions, que ce soit romans ou films, ont compris l'importance de cette double facette, force et douceur, justice et compassion. Vous prenez le film Le discours d'un roi, par exemple. George VI est roi, mais il n'a au commencement de son règne qu'une facette du roi idéal. Il n'a que le côté proche de son peuple. Il a le côté accessible, vulnérable. Mais il n'est pas ce roi fort, ce roi plein de charisme, ce roi invulnérable. Et le combat de ce roi, c'est d'acquérir cette double facette afin de devenir ce roi idéal. Et ainsi, George VI, qui doit se battre contre son bégaiement pour pouvoir diriger l'Angleterre à l'approche de la guerre. Ou encore le roi Arthur, ou Henri V de Shakespeare, ou Simba dans Le Roi Lion. Tous ces rois qui n'ont à l'origine qu'une facette de la royauté parfaite et qui doivent se battre pour devenir ce roi idéal, ce roi fort et doux, ce roi juste, puissant, mais compatissant également. Le roi idéal est à la fois fort, victorieux, mais également doux et humble. Mais le problème, c'est qu'aucun roi, aucun souverain, aucun président ne l'a été. Ce roi du psaume 2 va réunir en lui des choses qui n'ont jamais été réunies en une seule personne auparavant. Justice, souveraineté, tout comme amour et compassion. Qui donc est ce roi? Ce psaume 2 vise une réalité bien plus grande. C'est un psaume prophétique. Il présente ici le roi messianique. Nous croyons que ce psaume 2 présente Jésus-Christ. Verset 2, les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Le mot traduit par « reçu son onction »,« désigné par onction », c'est en fait le mot « Messie ». Les rois de la terre se soulèvent contre Dieu et contre son Messie. Les grands conspirent contre le Messie. Le Seigneur Dieu a mis son Messie sur le trône. Ce psaume parle de l'intronisation du Messie, du Sauveur tant attendu. C'est de lui dont il est question. Pas de David, pas de Salomon, mais le Messie lui-même. Ce psaume est cité à 5 reprises dans le livre de l'Apocalypse pour annoncer le retour du grand roi Jésus-Christ. Ce descendant de David sera particulier parce que le roi présenté ici est bien trop majestueux, bien trop glorieux pour n'être qu'un roi normal. La royauté de David ne sera qu'un pâle reflet de la royauté de Christ. Sa proximité, proximité de ce roi, son unité avec Dieu est telle que Dieu lui dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, Hébreux 1, verset 5. « En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci ? Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père, et lui pour moi sera un fils. » Et un petit peu plus loin, en Hébreux 5, verset 5, « Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui a déclaré, « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Comment, à la lecture de ce psaume, ne pas voir Jésus-Christ présenté ici? Tu es mon fils. Voilà le témoignage que Dieu lui-même donna à Jésus, son fils. Matthieu 3, verset 16, « Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles, « Celui-ci, parlant de Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. C'est bien de Jésus dont il est question ici dans le psaume 2. Jésus, le Sauveur, le Messie tant attendu. La royauté de Christ va surprendre le peuple d'Israël. Surprendre parce que Christ est venu avec ces deux facettes-là. C'est un grand roi, le plus grand roi que le monde connaîtra. Un roi dont la royauté fait peur au roi de la terre. Un roi dont la justice sera complète. Mais également un roi aimant et compatissant. Ce qui est surprenant dans notre texte, c'est le fait que ce roi parfait, ce roi idéal, juste, mais en même temps accessible, le Messie que Dieu suscitera, sera un roi détesté. Un roi détesté. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous, disent ces rois de la terre. Ce grand roi, le seul vrai roi, sera détesté. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Ce verset 3 n'est pas évident à traduire. Parce qu'à la première lecture, ce verset laisse penser que les rois de la terre sont comme emprisonnés par Dieu et son Messie, qu'ils sont enchaînés et captifs et qu'ils veulent se libérer de ces chaînes-là. Mais ce n'est en fait pas tout à fait l'image qu'utilise le psalmiste ici. Le mot traduit ici par « chaîne », les liens, renvoie en fait aux joues des animaux. Le joug, c'est cette pièce de bois permettant d'atteler les animaux de trait. C'est l'équivalent des brides pour les chevaux. Mais le joug, la bride, c'était à l'époque aussi la preuve que l'animal a un maître. La preuve que l'animal a un maître. Les rois de la terre ne sont pas enchaînés tels des prisonniers. Mais ils conspirent et se soulèvent contre leur maître. Ils se soulèvent contre leur maître. Les rois de la terre souhaitent être leur propre maître. Ils ne souhaitent être soumis à aucun autre roi. Ils veulent être leur propre roi. Je pense que tous ici ont déjà visité le dôme des Invalides. Dans ce dôme se trouve la tombe de Napoléon. Et si vous entrez dans le dôme, vous devrez vous pencher pour voir la tombe de Napoléon. Napoléon lui-même avait demandé à ce que sa dépouille soit placée en contrebas, afin que chaque personne ait pour voir sa tombe à se prosterner devant lui. Il n'y a, pensait Napoléon, pas de plus grand roi que moi. Tous doivent se prosterner devant moi. Hitler, lui, de son côté, était fasciné par Napoléon, fasciné par sa personne et par ses exploits. Et lors de sa visite du Paris conquis, il visita les Invalides pour pouvoir voir la tombe de Napoléon, son idole. Mais bien qu'il l'admirait, il ne voulait se résoudre à se prosterner devant Napoléon. Parce que pour Hitler, Napoléon n'était pas plus grand que lui. Hitler a donc amené avec lui un miroir afin de pouvoir voir la tombe sans avoir à se prosterner devant. Il y a des photos que vous pouvez retrouver où on voit Hitler avec son miroir en train de le positionner pour pouvoir voir la tombe. C'est à Napoléon de lever les yeux pour me voir dans toute ma grandeur, pensait Hitler. Il ne peut en avoir de plus grand que moi. Et je ne sais pas si la prochaine anecdote est réellement fiable, mais on dit qu'Hitler, en repositionnant le miroir pour voir la tombe, aurait fait tomber son chapeau. Et qu'ainsi, en plus de tirer son chapeau à Napoléon, en ramassant ce dernier, il se prosterna devant Napoléon sans même le vouloir. Il ne peut y avoir de plus grand roi que moi. Voilà ce que pensent les rois de la terre. Rejetons donc Dieu et son Messie. Les rois de la terre se soulèvent contre leur maître. Ils se soulèvent contre le roi suscité par Dieu. Ce que nous annonce le psaume 2 est choquant. Peut-être moins pour nous qui savons ce qui est arrivé à Jésus, mais choquant quand même. Le roi suscité par Dieu, le roi voulu par Dieu, choisi par Dieu, le Messie, sera détesté. Ainsi comme le résume Jean, la lumière est venue dans les ténèbres. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Nous vivons aujourd'hui dans une société où l'on rejette Dieu. Nous vivons dans une société qui rejette la lumière et qui préfère les ténèbres. Tels les rois de la terre qui se soulèvent contre Christ, les hommes aujourd'hui se soulèvent contre leur maître, contre leur créateur et contre le Messie Jésus-Christ. Voici ce que nous entendons aujourd'hui, voici ce qui est enseigné à nos enfants. C'est à toi aujourd'hui de décider de ce qui est juste ou non. Pourquoi avoir besoin de Dieu ? Pourquoi avoir besoin de Dieu ? C'est à toi de décider. Tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux de ta sexualité, il n'y a pas de règle. Tu peux utiliser ton temps, ton argent comme tu le souhaites. Libre à toi de faire ce que tu veux. Brisons les chaînes de notre tradition chrétienne pour vivre comme nous le souhaitons. Je n'appartiens, nous dit-on, à personne d'autre que moi-même. Pourquoi se soumettre à un Dieu alors qu'il est possible de vivre sans ? Vous pouvez être libre, nous dit-on. Même si être libre, c'est en fait accepter de devenir esclave de ses désirs, de ses péchés. La lumière est venue sur la terre, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres. Voilà ce que nous annonce en d'autres mots le psaume 2. Le roi des rois, le sauveur suscité par Dieu sera détesté par certains. Mais pourtant, tous en ont réellement profondément besoin. Tous en ont besoin de ce roi. Relisons les versets 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il est primordial de se positionner aujourd'hui par rapport à Jésus. Parce qu'il revient bientôt pour soumettre les nations avec un sceptre de fer. Il revient pour juger. Il revient pour détruire le péché, pour détruire la souffrance, la violence, la maladie. Il vient pour établir la justice. Il revient pour juger. Mais heureux, nous dit le texte biblique, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Justice, mais aussi amour et compassion. Ô Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez dans la voie que vous suivez. Au Fils, rendez votre hommage. Certains n'ont pas voulu que Jésus règne sur eux et ils sont allés jusqu'à le crucifier. Qu'en est-il pour nous ? Qu'en est-il pour nous ? Qui est Jésus-Christ pour nous ? Jésus est roi aujourd'hui. Aujourd'hui, Christ est roi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas forcément que toutes choses lui sont soumises. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne soit évident, ne soit pleinement réalisé. Toutes choses lui sont soumises, y compris nos vies. Jésus, le seul vrai roi, vient bientôt. Jésus est le roi du psaume 2, et il va revenir comme ce qu'il est, roi glorieux. Il va venir pour établir son trône sur la terre renouvelée, sur la Jérusalem céleste. Il va exercer la justice. Christ est le roi grand et majestueux. Mais il est également ce roi si doux qu'il invite des enfants, des gens de mauvaise vie, à faire de lui son roi, leur roi. Un Jésus nous connaît Il vous connaît. Et chose surprenante, il souhaite être votre ami. Ce roi souhaite être votre ami. Voici notre roi, puissant et humble. Voici notre roi qui est allé jusqu'à connaître la mort sur la croix afin de nous sauver. Ce roi juste, mais rempli de compassion. Un Christ est réellement juste. Si aujourd'hui nous pouvons nous prosterner devant Dieu son Père, si nous pouvons aujourd'hui recevoir la vie éternelle, c'est parce qu'il est juste. Dans son amour, dans sa compassion et dans sa justice, Christ est allé jusqu'à donner sa vie en substitution pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit le texte biblique. Oui, mais mort il y a eu. Jésus a connu la mort à notre place. La sentence qui était nôtre est devenue sienne. L'héritage qui était sien est devenu nôtre. Voici notre roi qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Il y a une logique dans le livre du psautier. Nous n'avons pas ici qu'un recueil de cantiques, mais bel et bien un livre avec un message précis. Dans le livre des psaumes, nous est présenté, nous est annoncé l'œuvre du Messie. Christ lui-même est présenté tout au long du livre. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, Christ est l'homme juste du psaume 1. Il est également le roi du psaume 2. Voici notre roi, juste devant Dieu, roi puissant et un roi aimant. Le roi Jésus-Christ est venu avec gloire et humilité. Il est venu afin de mourir pour nous. Si ce n'est pas déjà le cas, faites aujourd'hui de Christ votre roi. Amen.